Bonsoir. Dans Tribune de la Presse, ce soir, des journalistes congolais vont se prononcer sur l'idée de création des États fédéraux en République démocratique du Congo. Face à la crise politique et sécuritaire à l'est du pays, en seconde partie de ce magazine radiophonique, il sera question du climat de travail des journalistes congolais, plus de 3 ans sans carte de presse. Freddy Bikumbi Ignace est à la présentation de ces débats. Brunel Kati, journaliste travaillant à Kolwezi, au Katanga, participe à cette production. Bonsoir Brunel.
Bonsoir chers confrères et bonsoir à toutes et à tous.
Aussi en ligne, Madame Maggie Libébélé. Bonsoir.
Bonsoir Freddy et bonsoir aux auditeurs ainsi qu'à nos débatteurs.
Vous êtes journaliste basé à Kisangani, c'est dans la province de la Tchopo. Et Obed Kambale, journaliste de Digital Congo, ici à Kinshasa. Bonsoir.
Et bonsoir chers confrères, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Kapi à travers le monde.
Fidèles auditeurs, bienvenue à suivre Tribune de la Presse sur la radio de la paix en Afrique, au Kapi. Encore une fois, bonsoir chers auditeurs de la radio Kapi. Voici les informations analysées et commentées par nos invités. Quelle est l'actualité qui vous a plus touché cette semaine? On va à Kolwezi avec vous, Brunel Kati.
Voilà, merci chers confrères. J'espère que la connexion va me faciliter, n'est-ce pas, de pouvoir être audible. Je voudrais commencer par une petite actualité. J'ai entendu dans le média, n'est-ce pas, dans les territoires de Kapanga, l'un des territoires, n'est-ce pas, des forts territoires qui comptent la province du Lualaba, un individu a subi un changement de pigmentation, passant, n'est-ce pas, de la peau noire à celle blanche, et à la suite des examens de traitement dans 2 hôpitaux n'ont pas résolu les problèmes, et la cause reste jusqu'alors inconnue, selon la société civile, n'est-ce pas, qui est en train d'alerter sur cette situation. Et la communauté craint une possible contagion. C'est ici l'occasion pour moi de pouvoir lancer un appel, n'est-ce pas, aux experts dans les domaines de la santé, de pouvoir aider la communauté à pouvoir mener les enquêtes nécessaires afin de pouvoir dénicher les contours de cette maladie. Alors, en dehors de cette actualité, je voudrais ici saluer cette bravoure qui ne cesse d'afficher tous les jours la gouverneure de la province du Lualaba, dont dans sa gestion, la province est en train de rayonner tous les jours. Et aujourd'hui, à travers la République démocratique du Congo, tout le monde ne cesse de jeter des éloges, n'est-ce pas, sur les efforts de développement qui ne cesse de rendre possible cette grande dame qui donne vraiment, qui fait la fierté aujourd'hui des politiques dans notre pays. Dans un geste fort pour le développement du sport dans la province du Lualaba, cette gouverneure, c'est-à-dire la gouverneure Matsuka, a fait une avancée significative en dotant la ligue de boxe d'un ring olympique moderne et sécurisé. Et je me dois ici de souligner qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'un deuxième après celui de la capitale Kinshasa. Et la province du Lualaba aujourd'hui voit ce nouvel équipement qui est conforme, n'est-ce pas, aux normes internationales et qui marque un tournant décisif pour la boxe locale. Le samedi dernier, avec l'activité des motocross, c'est dans la province du Lualaba où ces révolutions sportives sont en train de se passer. Et c'est, n'est-ce pas, sous l'égide de la gouverneure Matsuka qui s'inscrit dans la logique du chef de l'État qui vise, n'est-ce pas, à pouvoir révolutionner, disons, le développement de notre pays. C'est au moins une petite actualité dont je voulais commenter.
Merci. Rendons-nous à Tchopo, à Kisangani, retrouver Maggie Libébélé.
Merci beaucoup de la question. L'information qui est donc d'actualité ici, c'est la poursuite de la réhabilitation des routes d'intérêt local de la ville de Kisangani avec le gouvernement provincial. En tout cas, si quelque chose est bien, si on voit les avancées, il faut les saluer. Nous saluons vraiment ces activités-là. Nous voyons que ça commence à transformer, à changer le visage de la ville de Kisangani. Voilà ce que j'ai comme actualité.
Revenons à Kinshasa avec vous, Obed Kambale. Qu'est-ce qui a bougé de plus le média ici? dans la capitale congolaise.
Oui, vous le savez, Freddy, Ignace, Kinshasa a été la capitale de l'Afrique pendant presque 8 jours. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a donné le go de la 16e réunion du Conseil des ministres du commerce de la ZLECAF. Donc, tous les ministres africains du commerce étaient à Kinshasa, et cela dans le cadre de cette intégration régionale économique du continent. Et cette réunion a été sanctionnée par plusieurs résolutions, dont la résolution phare est celle-ci. Les pays africains, à travers leur ministre du commerce extérieur, se sont engagés désormais de mettre en place une politique commerciale unifiée pour faire face à la guerre commerciale menée aujourd'hui par les États-Unis d'Amérique. Vous savez, le président Trump a imposé les droits des douanes à travers, donc, au niveau des tous les pays, y compris les pays africains. Or, la plupart des pays africains bénéficient aujourd'hui de l'AGOA. L'AGOA qui est la loi américaine qui permet aux produits des pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter leurs produits, passer par la technologie vers les États-Unis d'Amérique, sans paiement des droits des douanes. Au moment où cette loi n'est pas encore abrogée, mais le président Trump a imposé des droits des douanes aux pays africains. Alors, pour que l'Afrique soit forte, les ministres du commerce extérieur du continent se sont décidés, au lieu d'aller plaider seul, d'aller se courber devant Trump, désormais ils vont répondre d'une manière commune. Et cette stratégie-là, de mettre en place cette politique commerciale unifiée, va permettre au continent africain de peser sur la balance internationale, de faire face à cette guerre commerciale. Et la RDC a déjà présenté la liste de ces produits qui est estimé, je crois, 6439 produits qui seront concernés par le démantèlement tarifaire dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, qui prône la création de marchés communs africains avec une union douanière. Et dans 10 secondes, il y a un phénomène qu'il faut dénoncer, Freddy Ignace, à Kinshasa, qui prend de l'ampleur. Et si rien n'est fait, l'image même du pays est ternie. Et si vous partez à magasin, même sur 24, 5 mètres après 5 mètres, il y a les gens avec de baffes, les microphones, et transportant des enfants très malades, des orphelins, Sungamwana, Pesadi France, Zambako Sungayo. Je crois que toutes ces personnes devraient être arrêtées, parce que ces enfants, il faut les amener plutôt au niveau du ministère des Affaires sociales, au lieu de les étaler sous le soleil. Et toutes ces personnes-là qui ont des micros, qu'est-ce qu'elles gagnent? C'est comme si c'est une manière aussi d'escroquer la population quinoise. Je crois que les bourgmestres qui nous suivent devraient mettre les bouchées doubles pour en finir avec ce phénomène qui ternit, je le disais, l'image de Kinshasa, et au gouverneur lui-même de s'assumer. Trop c'est trop.
Merci pour ces informations partagées. Eh bien, face à la crise politique et sécuritaire à l'est du pays, certains acteurs politiques sont pour la création des États fédéraux en République démocratique du Congo. Cette réflexion vient encore une fois d'Olivier Kamitatu, qui divise l'opinion nationale. Pour lui, la République fédérale du Congo, une urgence nationale. Il appelle à un dialogue national inclusif pour adopter une nouvelle constitution fédérale, jeter les bases d'un État moderne, efficace et plus juste. Dans une tribune vendredi passé, l'ancien président du Parlement de transition en RDC soutient que le fédéralisme est une voie réaliste et nécessaire pour bâtir un Congo uni, prospère et en paix, où chaque région joue un rôle actif dans les destins communs. Fort de son expérience de 20 ans de recul, Olivier Kamitatu dit constater que la centralisation excessive de la gouvernance freine le développement du pays, malgré ses immenses richesses naturelles et culturelles. Michel Kufinda Ngoy nous fait le point.
D'après Olivier Kamitatu, la décentralisation promise par la Constitution de 2006 est restée inopérante. Les provinces dépendent toujours de Kinshasa pour leurs ressources et décisions. Face à l'échec du modèle unitaire, le président honoraire de l'Assemblée nationale des transitions propose une fédéralisation articulée autour des 6 grandes régions historiques, Oriental, Équateur, Congo, Kasaï, Katanga et Kivu. Pour le porte-parole de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, ce système offrirait une autonomie constitutionnelle à chaque région avec ses propres institutions, ressources et compétences, notamment en matière d'éducation, santé, infrastructure et développement. Il permettrait, souligne Olivier Kamitatou, une gouvernance de proximité adaptée aux réalités locales, valorisant la diversité linguistique et culturelle du pays.
Merci Kifin Dangoy. Cette idée revient après le démembrement du pays de 11 à 26 provinces. Comment réagissez-vous à cette pensée du fédéralisme en RDC, Obed Kambale?
Et merci beaucoup pour la question. Moi, ça m'étonne parce que Olivier Kamitatou, vous l'aviez évoqué, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale de ces pays pendant la transition.
En 2002, hein?
Oui, bien sûr. On est passé des 11 à 25 provinces, plus la ville de Kinshasa qui a le statut de ville, qui fait 26. Bien sûr, en décentralisation, il y a cette petite précision. Je ne sais pas si c'est... Le problème, la RDC, c'est comme peut-être, est-ce que c'est le véhicule qui est en panne ou le chauffeur qui est malade? Parce que nous sommes à pleine guerre. L'opérateur politique de la carrure d'Olivier Kamitatou, bon, il est libre de penser. Pendant que le pays est agressé, peut-il proposer qu'on puisse échanger, réviser la Constitution? Parce que si nous quittons des 26 à 11, ou bien à une autre formule, ça va demander qu'on puisse toucher à la Constitution. Moi, je crois que la priorité aujourd'hui serait de se concentrer sur la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est comme si le Nord Kivu, le Sud Kivu ne font plus partie de la République démocratique du Congo. Les politiciens ne se soucient que de leurs intérêts. Peut-être Moïse Katumbi, qui a été l'ancien gouverneur de l'ex-grand Katanga, peut-être il est encore nostalgique de ces grands Katanga. Aujourd'hui, les Katanga démembrés, bien sûr, il y a essai-erreur, mais je crois que Kolwezi ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, même le Tanganyika ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. En mettant la décentralisation, c'était pour couper la poire à deux, hein, parce que pendant la transition, il y avait ceux-là qui défendaient la forte centralisation et d'autres, comme Kamitatou aujourd'hui, qui défendent le fédéralisme et avec la ADN sécessionniste aussi des Katangais, ça c'est mon point de vue. Je crois qu'il y aurait des préalables hein, pour qu'on puisse revenir sur le fédéralisme qui n'est pas mauvais, mais aujourd'hui, même si on passait au fédéralisme, ce sera une solution magique pour que les pays puissent bouter dehors tous les agresseurs et puis en finir avec des centaines de groupes armés qui écument l'Est de la République démocratique du Congo.
Olivier Kamitatou soulève quand même l'idée d'une nouvelle constitution fédérale.
Bon,
nous avons vu Tshisekedi dit souhaiter hein, changer la constitution. Ça peut marcher alors.
Oui, peut-être l'histoire peut se répéter en République démocratique du Congo. Si je me rappelle lors des pourparlers entre le gouvernement et le Homme 23 à l'époque, je crois 2012 à Kampala, le Homme 23 à l'époque réclamait le fédéralisme pour qu'il puisse gérer et les finances et l'armée au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce le même schéma? C'est la question que je me pose. Certes, la décentralisation a ses difficultés. Hein, le fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation, ça pose problème. La Caisse est là sur le plan théorique, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Bon, le mode d'élection de gouverneurs, des sénateurs, ainsi de suite, c'est teinté de beaucoup de corruption. C'est une chose qu'on pourra toujours arranger à l'interne. L'émotion aussi est tempestive contre les gouverneurs de province. S'ils ne coopèrent pas, deux, trois députés peuvent se réunir autour d'un verre pour faire tomber ou bien pour faire chanter un gouverneur de province ou bien rapporter ou bien président de l'Assemblée provinciale. Tout ça, c'est essai et erreur.
Mais Obed, qui pourra gagner si la RDC fédérés, comme Olivier Kamitatou vient de le dire.
Bon, on a essayé avec la décentralisation qui était le juste milieu pour un peu séparer les gens qui étaient pour un État fortement centralisé et puis un État fédéral. Aujourd'hui, il y a essayé, mais tout n'a pas été mauvais. Moi, j'ai participé à l'installation des animateurs des 21 nouvelles provinces. C'était en 2015 avec le ministre d'État à l'époque, Salomon Banamouere. Il y a quand même certaines provinces démembrées. J'ai donné l'exemple du Lualaba, j'ai donné l'exemple de Tanganyika à l'époque de Moïse. Ce n'était pas le même développement, mais il y a aussi d'autres provinces qui n'ont pas pu évoluer. Par exemple, les Tchapa, Mongala, le Nord Ubangi, les provinces démembrées de l'ex-grand Bandundu. Mais il y a aussi le problème des managements des gouverneurs de provinces. On peut avoir un État fédéral ou bien fédéré. Si le management n'est pas mis à contribution, moi je crois que l'étymotif doit être le management des animateurs de ces entités-là. Ça pourra aider la République démocratique du Congo à décoller, parce qu'avec ça, on peut toujours continuer avec le problème des autorités morales. Un gouverneur est élu, mais il est plutôt redevable d'abord à son autorité morale ou bien à l'Assemblée provinciale qui met l'épée de Damoclès sur sa tête s'il n'obtempère pas d'ici quelques matins. Le gouverneur tombe ou bien le président de l'Assemblée provinciale tombe. Donc on peut se mettre autour d'une table et dire, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau de la décentralisation? Et puis les faiblesses de la décentralisation, on peut y travailler pour en faire des opportunités pour que les pays puissent décoller.
Magui Libebele, comment est-ce que vous trouvez cette réflexion autour du fédéralisme de la RDC?
Oui, bon, moi je trouve d'abord c'est une déclaration qui n'engage que Olivier Kamitatou comme un opérateur politique. Moi, en ce moment, moi, je dirais que c'est inopportun de penser au fédéralisme dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'il faut commencer d'abord par pacifier le pays pour penser à ça après. Pour moi, ce mode de gestion, hein, ça peut être bien ou faux, mais nous, on a commencé dans ce pays par le monopartisme, l'unitarisme. Et nous avons vu qu'il y avait des avancées, il y avait aussi des failles. Nous sommes maintenant dans la démocratie avec la décentralisation comme mode de gestion qui pose aussi des problèmes avec des avancées de l'autre côté et aussi avec des failles de l'autre côté. Moi, je pense que soulever le problème du fédéralisme au moment où le pays est agressé, c'est très dangereux parce que ça risque de forcer les pays davantage et même de faire un siècle tous les projets nationaux qui sont en train d'être exécutés ici dans notre pays. Pourquoi moi je dis la décentralisation, il faut d'abord qu'on maintienne ça, mais qu'on puisse renforcer la lutte contre la corruption et renforcer l'impunité, la lutte contre l'impunité dans notre pays. Parce que moi, je vois que ce sont ces deux choses-là qui font beaucoup mettre les bâtons dans les roues de la gestion de la démocratie dans notre pays. Vraiment, parler du fédéralisme en ce temps ici, le pays est agressé à l'est de notre pays, comment ça serait enfoncer les pays davantage. Voilà ma vision par rapport à la déclaration de tout opérateur politique.
Est-ce derrière une telle conception politique ne se cache pas l'idée de la balkanisation de la RDC un jour?
Effectivement, même si on parle aujourd'hui de fédéralisme, c'est pour dire, en quelque sorte, c'est pour dire que bon, vous, si vous et non, si vous restez déjà de votre côté, et on va prendre les autres gens qui l'avaient cité, et on va chercher le président. Vous connaissez la mentalité de parler quelqu'un qui prend possession ou bien qui est nommé ou bien qui est élu un président de tel de petits états-là. Il peut se soulever aujourd'hui pour dire que voilà, est-ce que nous sommes devenus un pays, on est dépendu de Kinshasa. Et là, ça devient compliqué. Ouais, ça devient compliqué. Pour moi, je vois que derrière ça, il y a cette idée-là de balkanisation. que nous ne voulons pas que ça puisse encore arriver ou ça puisse arriver dans notre pays en ces jours. Il faut d'abord commencer par pacifier le pays parce que le pays est agressé.
Pourquoi les Congolais ne sont pas comme les Soudanais qui ont facilité la division de leur pays, Soudan du Sud, Soudan du Nord? Il y avait aussi des idées sur le fédéralisme et puis on a vu le pays devenir en deux. Mais les Congolais ne sont pas en tout cas partants à des idées des politiciens. Pourquoi?
Vous savez, notre pays et les Congolais ont leur contexte différent. Parce que si on peut parler de la taille de notre pays, le Soudan aussi est vaste que notre pays. Vous voyez? Mais la différence est que dans notre pays, nous avons 250 groupes ethniques et 400 dialectes. Ça pose un problème. Si vous dites aujourd'hui que nous allons fonder le pays en des régions, vous risquez un jour de voir telle région se soulever pour dire nous ne sommes plus. Nous ne faisons plus partie de la RD Congo, nous sommes devenus notre pays indépendant et nous ne dépendons plus de la RD Congo. Et ça deviendra compliqué et la RDC ne sera plus appelée RDC parce qu'il y aura déjà une partie de son pays qui sera devenue notre pays.
Brunel Kachi, comment vous analysez cette réflexion qui pousse à une vision sur une constitution fédérée?
Je vais être exagérément clair sur ce point. D'emblée, il est très important de souligner que l'Afrique, et en particulier la République démocratique du Congo, notre pays, n'a pas encore atteint la maturité requise pour adopter un système politique fédéral. Un tel système est adapté aux États-Unis ou aux États où la démocratie et la bonne gouvernance sont très bien établi, je souligne très bien établi, ce qui n'est malheureusement pas notre cas, nous, la République démocratique du Congo. Prenons les cas de notre pays, parce que aujourd'hui, il y a, ce qui est vrai, beaucoup de gens en parlent, divisé en 26 provinces, ce qui pose d'abord des sérieux problèmes de cohabitation entre les populations. Nous sommes encore confrontés à un tribalisme primaire, où des individus peuvent être disqualifiés à raison de leur province d'origine ou leur nom. Cela révèle, n'est-ce pas, des tensions ethniques profondes. L'adoption d'un système fédéral dans ces pays, chers confrères, pourrait mener à la fragmentation du pays. Les États fédérés pourraient devenir des parvenus indépendants. La conscience venait de le dire, affaiblissant ainsi l'autorité du gouvernement central et menaçant, n'est-ce pas, l'intégrité nationale. Le pays est déjà en proie à une balkanisation systématique que nous devons être clairs envers nous-mêmes. Visible à travers des mouvements séparatistes et des revendications linguistiques. Pour résoudre nos crises politiques et sécuritaires, nous devons transformer notre gouvernance. Le changement doit commencer par une prise de conscience collective et un engagement à travailler pour le bien commun. La mauvaise gouvernance aujourd'hui, les détournements des fonds publics et les injustices sociales dont sont metteurs en scène certains acteurs politiques ne font qu'aggraver les tensions aujourd'hui existantes. Il est inadmissible aujourd'hui que dans un pays aussi riche en ressources, la pauvreté soit omniprésente, tandis que certains élites, certains politiques s'enrichissent illégalement. Les infrastructures de base, telles que l'eau, l'électricité et les routes, doivent être améliorées par une gestion rigoureuse et transparente des ressources. Et cela ne relève pas des seules compétences du chef de l'État. Il travaille avec des gens lesquels aujourd'hui, certains sont des experts dans les détournements. Dans une incompétence exagérément naturelle, excusez les termes. Je ne crois pas que le fédéralisme soit la solution. Il pourrait au contraire, chers confrères, accélérer la désintégration de notre pays. Déjà dans certaines régions, on observe des symboles, n'est-ce pas, séparatistes, comme des drapeaux de la République du Kivu ou du Katanga. Le fédéralisme ouvrirait la voie à la balkanisation et cela est clair. Nous devons privilégier un système unitaire renforcé par une gouvernance responsable et éthique. C'est en changeant notre approche de la gouvernance que nous pourrons véritablement progresser et préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo qui demeure notre seul patrimoine que nous avons tous en commun. Aujourd'hui, monsieur Kamitatu, qui fait cette proposition? Ah oui, il y a un goût roche. Les politiques dans notre pays, ça donne à des réflexions de foi gauche, justement parce que ils voient leurs intérêts ou ils visent leurs intérêts derrière tout ça. Il vous souviendra des réclamations de ces mouvements rebelles M23 qui préconisaient déjà le fédéralisme. que M. Kamitatou, qui s'est transformé depuis un temps à porte-parole de M. Kabila, mais aussi de M. Katumbi, lesquels semblent être insensibles, n'est-ce pas, sur la question sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, au-delà du saupoudrage qui nous affiche.
Colonel, pourquoi aujourd'hui vouloir fédérer la RDC, ce qui n'a pas été le cas sous Joseph Kabila pendant 18 ans?
C'est comme ça que je suis en train de dire qu'il y a un ruisseau roche, c'est-à-dire qu'il y a un arbre qui cache la forêt. Et c'est cette réflexion aussi gauche. Ce n'est pas pendant cette période qu'on va soumettre, disons, des propositions du genre. C'est une façon d'anticiper leur projet macabre, des mordre à l'hameçon à ces projets suicidaires de la balkanisation. C'est ici où je suis en train de dire que le peuple de la République démocratique du Congo, ou le peuple que nous sommes, devons être éclairés, devons être éveillés et comprendre que ces politiques congolais ne voient que ses intérêts. Aujourd'hui, je crois que M. Katumbi a perdu l'espoir de diriger un pays grand à la taille de la RDC. Voudrait aujourd'hui.
C'est pas Katumbi qui l'a dit, hein, c'est Olivier Kamitatou. C'est pas Katumbi. C'est Olivier.
Ici, il faut se mettre en tête, chers confrères, qu'un porte-parole, tout ce qu'il dit, reçoit l'approbation de son chef. Quand on parle de Kamitatou, on voit Katumbi. Et aujourd'hui, vous avez entendu M. Kabila, qui voudrait rentrer en République démocratique du Congo, bien qu'il se soit exilé de son propre gré. Il rentre, il dit rentrer par l'Est de la République démocratique du Congo, où les rebelles ont déjà pris une position dans tous les sens, monsieur Kamitatou qui l'a annoncé. Mais ce sont des questions qui doivent nous amener à la réflexion et comprendre que ces politiques ont une autre vision pour ces grands pays que nous aimons. Ce n'est pas en cette période que nous devons réfléchir fédéralisme. Nous devons d'abord réfléchir sur comment améliorer notre gouvernance, comment récupérer des zones minées ou prises, mais ça par les rebelles, soutenu par le Rwanda.
Pour clôturer ce sujet, je vous demande 10 secondes. Vous êtes des journalistes, comment est-ce que vous trouvez la population qui a accueilli cette réflexion d'Olivier Kamitatou? Surtout, je me fixe sur la population de Kamanyola, de Kalehe, de Goma, Rutshuru. Comment est-ce que la population peut-elle accueillir une telle réflexion, Brunel?
Cette population va certainement être déçue et est déçue parce que si vous posez des questions aujourd'hui à nos confrères même qui vivent, n'est-ce pas, à Goma, ils vont vous dire comment la situation sociale est catastrophiquement détériorée. Et si aujourd'hui des politiques censées n'est pas contribuer avec des réflexions qui sont assises, n'est-ce pas, pour la libération de ces contrées lesquelles font face à une crise caractérisé par l'égoïsme de certains d'entre nous, aux Congolais, et si aujourd'hui ces mêmes politiques doivent venir avec les réflexions du genre, on doit passer par le fédéralisme, c'est-à-dire répondre aux exigences de ces rebelles, et permettre ainsi une gestion où tout le monde va se retrouver dans le sens de pouvoir plaire à ces ambitions aussi macabres. Je crois que cette population est totalement, n'est-ce pas, désolé de pouvoir entendre ces réflexions venir de gens censés réfléchir à haute voix d'une manière aussi qui atteste quand même l'existence d'une tête pensante. Alors je crois personnellement que ces populations doivent nécessairement garder espoir parce que nous sommes dans un pays où tous nous ne partageons toujours pas les mêmes idées. C'est aussi ça la beauté de la démocratie lorsque chacun réfléchit dans son sens, mais nous pensons qu'il est aussi démoniaque de réfléchir dans un sens de pouvoir encourager
Merci.
Une crise en cours où la population victime directe est en train d'espérer une solution.
À vous, Magui Libebele, comment est-ce que vous trouvez l'attention de la population de Kisangani, par exemple, ou de l'Ituri, en accueillant une telle réflexion politique?
La population de la Tchopo dira que voilà, nous sommes encore une fois roulés dans la farine, par nos politiciens. Et ça risque même de diminuer le taux de participation des électeurs aux élections prochaines. Vous voyez, parce qu'ils diront que tout ce que nous faisons, c'est comme si nous faisons qu'enrichir les gens, nous faisons que pour les intérêts de nos politiciens, et donc ça ne sert à rien pour qu'on aille voter, ça ne sert à rien pour qu'on puisse encore même faire plaidoyer par rapport à nos promesses. ici dans la Tchouk.
Obed Kambale.
En démocratie, hein, on est libre de donner son point de vue, de faire une réflexion, ce qui n'est pas mauvais. Mais cependant, est-ce le moment a été bien choisi? Je réponds directement, je dis non, le moment n'est pas propice pendant que le pays est agressé. À mon avis, parce que la population de l'Est risque de prendre cela comme une vaste blague et puis une distraction. Je me dis, on peut changer des systèmes de gestion en République démocratique du Congo. La RDC, c'est comme un véhicule qui est en panne. On peut changer tant de chauffeurs ou tant de systèmes si et seulement si la panne n'est pas encore donc d'abord dénichée et réparée, on pourra tourner à rond donc 10 ans, 15 ans, 20 ans.
Merci. Avant de terminer cette tribune de la presse, parlons de notre métier en République démocratique du Congo, le journalisme. Aucun journaliste congolais possède une carte de presse valide depuis plusieurs années, je pense. Et après la tenue du...
Presque
5 ans,
oui.
Et après la tenue du congrès de l'UNPC, c'était en septembre 2024, ici à Kinshasa. Aujourd'hui, 7 mois, la commission de la carte professionnelle de l'UNPC n'a pas encore identifié les journalistes congolais ni imprimé un premier lot de la dite carte. Actuellement, il est difficile de distinguer un journaliste professionnel d'un stagiaire ou d'un communicateur politique. Et que comprendre de cette situation que traverse le journaliste congolais? Benjamin Mudumbi nous en dit plus.
Effectivement, il y a 4 ans que la carte de presse n'est pas délivrée aux journalistes congolais. Malgré son utilité professionnelle et légale dans l'exercice du journalisme, la carte de presse semble ne pas figurer parmi les priorités du nouveau comité de l'UNPC et de sa commission de la carte professionnelle. Mercredi dernier, le bureau exécutif de l'UNPC et les membres de cette commission se sont rencontrés pour définir les lignes à suivre. Mais aucune date précise d'impression n'a été décidée quant à ce. Charles Dimanja Wimbi, président de la commission de la carte professionnelle au sein de l'UNPC.
Nous nous sommes mis d'accord sur le principe, d'abord sur les critères qui vont désormais régir la profession. Nous avons également parlé des aspects pratiques, la fabrication de la carte. Et il faut trouver un fabricant qui nous produit un document qui ne sera pas falsifié, comme par le passé. Lorsque vous sollicitez une carte de presse, vous devez remplir un certain nombre de critères parce que nous estimons que la profession a souffert pendant longtemps de l'envahissement des personnes qui n'avaient rien à voir avec la profession. Alors nous voulons mettre fin à cette confusion au sein de l'opinion. Donc le journaliste sera reconnu désormais à travers un cursus.
Pour l'instant, aucun journaliste congolais ne peut exercer librement à l'extérieur du pays au risque d'être poursuivi pour usurpation de fonctions et des statuts de journaliste professionnel. Pour ceux ayant payé le frais d'obtention de la carte de presse en 2021, leurs candidatures seront soumises encore une fois aux critères de sélection définis pour ne rester qu'avec ceux qui sont journalistes, se débarrasser de mouton noir. Aussi, le prix de la nouvelle carte de presse n'est pas fixé jusque-là, a souligné Charles Dimanja Wimbi, président de la commission de la carte de presse.
Merci à Benjamin Mudumbi. En fait, Magui Libebele, vous êtes manager d'un média en ligne Paramètres RDC, aussi directrice provinciale de l'Union congolaise de femmes des médias dans la province de la Tchopo. Derrière vous, il y a bon nombre de journalistes. Comment est-ce que vous trouvez cette position de l'UNPC, l'Union nationale de la presse congolaise, et de sa commission de la carte de presse face au statut légal des journalistes congolais?
Vraiment, c'est un problème sérieux pour nous les journalistes exerçant cette profession dans notre pays, parce que cette carte-là nous donne la qualité de journaliste. Il y a même dans d'autres activités, par exemple ici, des partenaires extérieurs ou des partenaires étrangers qui parfois demandent à nos journalistes reporters de faire carte pour venir couvrir leur activité, parce qu'ils veulent être sûrs si c'est le journaliste que vous envoyez et tant journaliste qui vient de telle maison de presse pour être sûr. Pour cette carte-là, il faut l'exhiber. Mais comme on n'en a pas, ça pose un problème. Le travail que nous faisons ici, c'est maintenant la relation. Nous comprenons seulement ce qui est fait. Et les partenaires comprennent seulement que nous sommes des journalistes, qu'on suit votre voix dans la radio, on te voit à la télé, ou bien on voit votre journal en train de paraître. On connaît que ces médias-là existent, mais quant à la qualité des journalistes, on n'en a pas. Et ça pose un problème avec les amis qui se trouvent encore à Goma et à Bukavu aujourd'hui. Est-ce qu'il faut les appeler les journalistes parce qu'ils sont déjà dans des villes où les rebelles sont en train de diriger aujourd'hui? Est-ce qu'il faut les appeler des journalistes ou non? Voilà un peu les difficultés que nous avons. Et le INPC pour faire sortir les critères, pour faire tous ces états de liés-là, et mettre ça à la disposition des journalistes. Il faut vraiment lui donner 10 ans ou bien 15 ans pour faire ça. Vraiment, ça nous met à mal cette situation-là. Ça nous met à mal, en tout cas, on est mal à l'aise par rapport à ça, parce qu'on ne sait pas si on est journaliste. Parce que si tu dis journaliste, montre-nous ta carte. Moi, j'avais payé, personnellement, j'avais payé à l'année 2021, là. Mais jusqu'à là, on n'a pas encore délivré des cartes. Et il faut attendre encore combien de temps pour que nous soyons à de quoi dépendre.
Allô, Magui? Oh là là, nous avons perdu Magui. La réalisation, on va la récupérer. Obed, vous êtes ici à Kinshasa. Et que dire des journalistes qui sont dans les zones contrôlées par le M23, qui ne sont pas identifiés comme tels en tant que professionnels de ces métiers?
C'est tout un problème. Je me pose la question, pourquoi ce grand sommeil des nouveaux dirigeants au niveau national de l'UNPC, l'équipe Kamanda Wakamanda à Mouzembe, qui a redonné de l'espoir aux journalistes congolais que beaucoup de choses vont changer. Je peux parler d'un bilan un peu mitigé. Je vais revenir à votre question parce qu'il n'y a pas...
Ça fait 7 mois. Hein.
Oui, parce qu'il n'y a pas encore d'action palpable. Bien sûr, ils ont moins d'une année, mais 7 mois n'est pas peu non plus. Or, parmi les missions principales de cette nouvelle équipe dirigeante de l'UNPC au niveau national, coiffée par Kamanda Wakamanda Mouzembe, c'était la délivrance des cartes des journalistes. Parce qu'aujourd'hui, nous, journalistes congolais, qui sommes appelés à jouer un rôle très important dans la démocratisation de ces pays et même dans le développement de la République démocratique du Congo, nous sommes sans identité. Parce que c'est cette carte-là qui délivre l'identité aux journalistes congolais. Je suis désolé, donc nous exerçons sans identité. Et puis, la deuxième mission, c'était le nettoyage de la profession, faire face donc à la salubrité médiatique. Comme l'avait dit le président Tshisekedi, il fallait qu'on en finisse avec les moutons noirs qui ternissent notre métier. Mais le nettoyage de la profession des moutons noirs, ça doit passer par la délivrance de ces cartes de journalistes qui passent par le recensement. Si on recense tout le monde, l'UNPC aura une idée qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde croit qu'il est journaliste. Oh, il y a des critères clés fixé par même l'UNPC, et on attend également de l'UNPC l'organisation des séminaires, des ateliers, des mises à niveau des journalistes pour faire...
Mais rien n'est fait.
Oui, pour faire face aux défis des pétentiques. Aujourd'hui, les nouvelles techniques de l'information, de la communication, nous à notre époque, ils n'avaient pas comme aujourd'hui. La lutte, par exemple, contre le fake news, vous avez une très belle émission ici à la Radio Capis.
Tout à fait.
Est-ce que nous sommes formés quant à ça? Je crois c'est parmi les défis que l'équipe Kamanda est appelée à relever. Je crois une année après, et bilan doit être établi pour voir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Surtout, le problème, vous m'avez posé la question, je vais y répondre. On ne sent pas l'UNPC pour soutenir les journalistes qui sont donc entre les dents donc du Lion, donc du Rwanda, même du M23 AFC. Là, l'UNPC est un peu miette pour plaider la cause de ces journalistes. Comment ils vivent aujourd'hui? Parce que un journaliste, c'est lui qui vit de son métier. Il n'exerce presque plus. Les correspondants, par exemple, des chaînes qui sont ici à Kinshasa ne peuvent plus envoyer leurs reportages. Comment ils payent leur maison, ceux-là qui sont locataires? Or, la majorité doit être locataire, selon mes recherches. On ne sait pas le plaidoyer mené par l'UNPC.
Brunel, Cathy, que doivent faire les journalistes congolais pour redynamiser leur corporation UNPC sans ingérence politique ou de la théorie de la main invisible qui fait retarder la production des cartes de presse en RDC?
Et pour l'UNPC, je dois malheureusement exprimer aussi ma déception. La profession journalistique est en déclin et nous en sommes largement responsables. L'UNPC, à mes yeux, je disais depuis la période des feux, n'est-ce pas, Kasonga, Tshilundé, n'apporte que peu de valeurs ajoutées. C'est devenu plutôt un cadre où l'on use de l'influence pour se positionner politiquement. C'est la seule plusieurs années actuellement, sans carte de presse, ce qui est inacceptable. Tant que l'UNPC restera une simple association où tout le monde peut s'improviser journaliste, sans formation ni encadrement, la situation ne changera pas, cher confrère. C'est un problème fondamental. J'ai toujours plaidé pour que la corporation devienne un ordre professionnel. À l'image des avocats, des médecins ou comptables. Aujourd'hui, nous avons un ordre des comptables en République démocratique du Congo. Un ordre de journalistes pourrait instaurer une régulation stricte et améliorer notre profession. Actuellement, la carte de l'UNPC n'a plus de valeur. Et cela doit changer. Et même lorsque la carte était là, c'était tout le monde qui en avait. Conséquence, personne n'était considéré. Et jusqu'alors, qu'est-ce qui bloque? Même les états généraux de la corporation sont inexistants. Les congrès organisés n'ont aucun impact réel sur les conditions des journalistes, qui souvent ne sont ni payés ni sous contrat. L'UNPC semble, à mon avis, être devenu un outil au service des politiques. Nos dirigeants passent plus de temps dans le couloir politique à défendre le droit des journalistes. Il y a un problème de cotisation, par exemple, au sein de la corporation, ou même qui sommes journalistes, car la majorité des journalistes ne contribuent pas financièrement. L'UNPC survit grâce à l'influence politique.
Allô Brunel? Bon, pour terminer avec cette idée sur la carte de presse, que faire pour que nous voyons vraiment le comité Kamanda puisse répondre à cette exigence professionnelle? Ça sera aussi votre conclusion, Magui Libebele.
Pour que la situation soit décantée, nous demanderons au comité d'être installé, de faire de la commission des cartes, que ça soit une priorité de priorité d'abord pour remettre aux journalistes et leur qualité afin de leur permettre d'accéder facilement à des sources d'informations pour exercer mieux son travail. Et de l'autre côté, comme les confrères ont dit aussi, il faut qu'ils sensibilisent aussi la population, plutôt les journalistes, à contribuer parce que nous, les Congolais, c'est toujours difficile qu'on puisse contribuer à. Mais si l'UNPC commence à sensibiliser et met aussi des sanctions par rapport aux membres qui ne contribuent pas, ça pourrait faire avancer la situation. Et de l'autre côté, je dirais aussi que l'UNPC soit équitable quant à ce qui concerne les formations. Parce que nous, à la province de la Tshopeti, on ne sent pas, on sent comme si on est abandonné par l'UNPC. Et toutes les formations, c'est là-bas à Kinshasa, pendant qu'ici, il y a des journalistes, il y a des jeunes qui viennent dans le métier, qui ont besoin des formations, des différentes formations pour évoluer. Voilà.
Merci bien. Votre conclusion aussi, Obed, vous mettez un point par rapport à la carte de presse, et puis vous concluez aussi.
Oui, je me pose une question. Est-ce le comité Kamanda a les moyens de sa politique? Peut-être aussi il s'est un problème de moyens. Le confrère a évoqué le problème des cotisations des membres. Ça demande une sensibilisation, une conscientisation de nos confrères. Or, la délivrance des cartes, c'est une source aussi de revenus pour faire respirer l'UNPC qui, certes, a des problèmes de moyens. Mais c'est à l'équipe dirigeante actuelle de créer le mécanisme pour que les moyens soient là, mais aussi les niveaux de vie des journalistes, les problèmes de manque de contrat de travail, les journalistes qui sont très mal payés, d'autres pour eux certains même à des difficultés pour payer sa propre carte. Merci.
La réalisation m'a fait signe que Brunel Kachi est là. Ça sera aussi votre conclusion sur la problématique de la carte.
Voilà, j'étais en train de dire une juste une question d'une organisation. Aujourd'hui, les responsables doivent n'est-ce pas prendre des responsabilités à main, parce que si nous continuons avec cette allure, nous allons n'est-ce pas nous faire enterrer nous-mêmes. Nous sommes aujourd'hui une des organisations la plus désorganisée à travers la République démocratique du Congo actuellement. C'est donc avec une bonne gouvernance et cesser n'est-ce pas d'être derrière les politiques d'une façon à pouvoir marcher sur nos intérêts ou les intérêts qui organisent n'est-ce pas ou qui doivent protéger notre profession. Nous allons arriver à relever ces défis et nous réorganiser. Je crois que si nous devons tous prôner pour un ordre de journalistes, nous allons n'est pas avoir une structuration qui va nous honorer.
Merci à vous tous. C'est la fin de ce numéro. Tribune de la presse a connu la participation de Brunel Kati, journaliste travaillant à Kolwezi au Katanga, Magui Libebele, manager de médias en ligne Paramètre RDC et directrice provinciale de l'Union congolaise des femmes de médias ICOFEM dans la province de la Tchopo, et Obed Kambale, journaliste de Digital Congo ici à Kinshasa. Merci à toute l'équipe rédactionnelle de la Tribune de la Presse, Kelly Kouté Guimaté, sous la supervision de Martin Sebudjangwe. À la technique, merci à vous, Dieudonné Nyangasa et Hervé Voka Simba. Je suis Freddy Bikumbi Ignace.